Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, il est historien en charge d'une mission confiée par le président de la République pour rebaptiser des rues avec des noms de personnalités issues de l'immigration. Il en a identifié 318 d'horizons très divers. Il est lui-même parfois critiqué pour ses prises de position sur le racialisme ou la colonisation justement. Pascal Blanchard est ce soir notre invité. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix, des caméras dans les prétoires pour diffuser les procès à la télévision comme aux États-Unis. Alors bonne idée ou mise en danger de la présomption d'innocence, on en parlera. 19h15, la carte blanche avec ce soir le patron de presse Franck Hannès qui viendra nous présenter son nouveau magazine sur le futur, ça s'appelle Bing Bang. Et puis 19h20, grand débat ce soir sur les diplômes, les jeunes français n'ont jamais fait autant d'études, Bac plus 3, Bac plus 5 et parfois plus. Mais pour quel résultat? Le sacro-saint diplôme est-il toujours le sésame pour trouver du boulot? Et pourquoi la filière de l'apprentissage est-elle toujours chez nous, en France, dévalorisée? On en parlera avec nos invités et avec vos témoignages. D'abord le journal avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Ne pas attendre qu'elles se prennent le mur. Le ministre de l'économie annonce qu'une partie de la dette de certaines entreprises pourrait être annulée.
Une mesure qui se fera au cas par cas et seulement pour celles qui sont le plus affectées par la crise. On vous expliquera tout.
Le meurtrier de Sarah Halimi ne sera pas jugé. La Cour de cassation confirme son irresponsabilité pénale. Énorme déception pour la famille.
Ce nouveau contretemps dans la campagne de vaccination, le Janssen, stoppé avant même son arrivée. On verra quelles sont les conséquences chez nous en France.
Il est l'auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire. Bernard Madoff vient de s'éteindre en prison. Il avait 82 ans.
Et puis on ira du côté de Grand-Synthe dans le Nord, où un boulanger remue ciel et terre pour empêcher l'expulsion de son apprenti guinéen.
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,40% à 6208 points.
La météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Le froid résiste, ça continue demain.
Oui, avec encore des gelées matinales qui se généralisent et qui seront vraiment présentes dans de nombreuses villes. Le ciel sera très dégagé et ensoleillé sur la façade ouest. Beaucoup plus nuageux à l'est avec le retour de la neige demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et donc peut-être une bouffée d'air pour les entreprises les plus touchées par la crise. Le ministre de l'économie a en tout cas annoncé ce matin qu'une partie de leurs dettes pourrait être annulée, en tout cas pour celles qui sont le plus affectées.
Oui, c'est une question de survie pour certaines sociétés qui ne se relèveront pas sans une aide supplémentaire de l'État, Maud Deschamps.
Exactement. Un grand nombre d'entreprises sont en manque d'activité et n'ont plus de quoi rembourser leurs emprunts ou de payer leurs impôts. D'ici quelques semaines, donc, un dispositif sera mis en place pour proposer d'étaler ou d'annuler partiellement leurs dettes. Tout cela va être étudié au cas par cas, précise-t-on à Bercy. On va faire de la dentelle, m'a-t-on dit. Un objectif clair. Une entreprise saine doit pouvoir survivre à cette crise. On sait que certains secteurs sont particulièrement touchés, comme l'événementiel, où l'activité ne repartira pas au niveau d'avant-crise du jour au lendemain, ou encore l'aéronautique, où il n'y a pas de perspective de reprise avant 2 ou même 3 ans. Et donc, à Bercy, on dit vouloir réagir avant que ces entreprises ne puissent plus se relever. Quant au coût de ce nouveau coup de pouce, il n'y a pas d'enveloppe, nous précise-t-on au ministère, tout en rappelant tout de même que nous sommes dans le quoi qu'il en coûte.
Merci Maud. Maud Descamps du service éco d'Europe 1.
Et suite à ces annonces, Aurélien Fleurot vient de joindre le président de la CGPME, François Asselin. La CGPME, c'est la Confédération Générale des Petites et des Moyennes Entreprises.
C'est l'idée du gouvernement, donc c'est un premier pas. Nous le saluons, nous l'accompagnons et nous continuons à travailler auprès de Bruno Le Maire et de ses équipes pour aller un petit peu au-delà et imaginer ce que pourrait être ce fameux prêt de consolidation qui permettrait vraiment d'éviter à ces entreprises eh bien, tout simplement d'être en défaillance de paiement. Et là, bien évidemment, quand c'est comme ça, eh bien, on peut risquer des faillites en cascade parce que les entreprises, vous savez, sont toutes clients et fournisseurs les unes des autres. Et certaines entreprises qui avaient un modèle économique tout à fait viable eh bien, se retrouvent devant un mur de dette qu'elles ne peuvent pas franchir. Et donc, si on ne met pas de mesures spécifiques pour étaler la dette de ces entreprises, ce mur de dette, eh bien, malheureusement, elles vont péricliter alors que elles ont un modèle économique tout à fait viable si on leur permet d'étaler ce qu'elles ont accumulé en termes de dettes.
François Asselin, le président de la CPME, joint pour Europe 1 par Aurélien Fleurot.
Toujours aucune nouvelle de la petite Mia, 8 ans, enlevée chez sa grand-mère dans les Vosges hier soir.
Oui, près de 24 heures après le lancement de l'alerte enlèvement qui a depuis été retirée. On sait que les ravisseurs se sont fait passer pour des représentants de la protection de l'enfant. Mia pourrait être également accompagnée de sa maman qui n'a pas le droit de la voir seule. Elle pourrait constituer cette maman un danger pour son enfant. On y reviendra dans le journal de 19h.
C'est une affaire qui avait bouleversé la France. Le meurtre de Sarah Halimi en 2017, cette sexagénaire juive défenestrée par l'un de ses voisins.
Aujourd'hui, la Cour de cassation vient de confirmer qu'il n'y aurait pas de procès. Son meurtrier a en effet été déclaré irresponsable pénalement, Marion Dubreuil.
Oui, le jour du meurtre, Kobili Traoré avait consommé beaucoup de cannabis et cela a provoqué chez lui une bouffée délirante aiguë. Deux experts psychiatriques sur trois avaient conclu à l'abolition de son discernement et donc son irresponsabilité pénale. La famille Halimi avait déposé un pourvoi en cassation qui a donc été rejeté. C'est une très grande déception pour Maître Oudy Bloch, l'avocat du frère de Sarah Halimi.
Comment vous voulez expliquer à la famille de Sarah Halimi que la personne qui a frappé à mort pendant 20 minutes Sarah Halimi avec des insultes, des cris d'Allah Akbar, qu'il a ensuite défenestré du troisième étage, que son comportement, que son discernement était aboli. Comment vous voulez expliquer que la chambre de l'instruction a retenu dans son arrêt la circonstance aggravante d'antisémitisme, mais que pour autant, il n'avait plus aucun discernement.
Et la famille Halimi envisage donc de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est une procédure formelle qui ne pourra pas mener à un procès pénal. La famille doit désormais tirer un trait sur l'espoir de voir le meurtrier de Sarah Halimi traduit en justice. De son côté, l'avocat de Kobili Traoré a salué une décision conforme au droit.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Autre décision de la Cour de cassation. Cet après-midi, elle confirme la relaxe du cardinal Barbarin, l'ancien archevêque de Lyon, poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle pour ses silences dans l'affaire Préna. Le politologue Olivier Duhamel reconnaît devant la police les faits d'agression sexuelle dont l'accuse son beau-fils, des faits dévoilés dans le livre de sa belle-fille Camille Kouchner, La Familia Grande.
On parlait hier soir de cette suspicion autour du vaccin Johnson & Johnson, dont l'utilisation est suspendue aux États-Unis. Eh bien, les autorités américaines ont recommandé une pause après l'apparition de cas graves de caillots sanguins.
Et on attend maintenant les recommandations de l'Agence européenne du médicament. Ce sera la semaine prochaine. Chez nous, en France, en tout cas, ce vaccin devait être l'un des outils permettant de booster la campagne de vaccination à partir de la semaine prochaine. Alors Anne Le Gall, concrètement, ça va changer quoi ?
Alors la restriction d'âge aux plus de 55 ans pour le vaccin Janssen, qui a été rappelé par Gabriel Attal ce matin, n'est pas un problème, puisque la vaccination n'est pas ouverte pour l'instant aux Français plus jeunes. Si on a des doses, les injections avec Janssen pourraient donc démarrer la semaine prochaine comme prévu en France. Tout dépendra en fait de l'avis de l'Agence européenne du médicament, qui pour l'instant estime toujours que la balance bénéfice-risque est favorable. Se pose maintenant la question des livraisons, parce que pour l'instant le laboratoire Johnson & Johnson a suspendu le déploiement de ses vaccins en Europe. 200 000 doses de ce sérum sont déjà arrivées en France et sont en train d'être acheminées vers les médecins et les pharmaciens, mais nous en attendons 600 000 pour tout le mois d'avril, 8 millions d'ici juin, et c'est l'avis des experts européens qui permettra sans doute de tout débloquer. Mais si jamais il y a des retards, rappelons quand même qu'en avril-mai, les vaccins de Janssen représenteront moins de 16% du total des livraisons attendues en France.
Précision d'Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Notez que les Danois viennent d'annoncer qu'ils renonçaient définitivement à AstraZeneca. C'est le premier pays d'Europe à le faire. Emmanuel Macron était à Reims cet après-midi auprès de soignants dans un service de pédopsychiatrie. Le Covid fait aussi des ravages sur la santé mentale et notamment celle des plus jeunes.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous 18h07 dans quelques secondes, la suite du journal. La mort de l'auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire, Bernard Madoff, on en parle.
Et puis le combat d'un boulanger pour son apprenti menacé d'expulsion.
A tout de suite. Et dans la suite du journal, on parle de Bernard Madoff. Il était l'escroc de tous les superlatifs. Le financier vient de mourir. On l'a appris en fin de journée en prison.
Oui, Alexis Guillon, on vous retrouve. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Madoff avait 82 ans, figure de Wall Street. C'est au moment de la crise des subprimes que le monde a découvert avec stupéfaction l'une des plus grandes escroqueries de tous les temps. Alexis, il purgeait une peine de 150 ans de prison.
Oui, à cause d'une arnaque à 65 milliards de dollars basée sur une pyramide de Ponzi. Un montage financier qui rémunère les anciens clients grâce à l'argent apporté par l'arrivée de nouveaux investisseurs. Bernard Madoff a construit cet édifice pendant 20 ans et tout s'est écroulé en 2008 au moment de la crise financière. Des victimes dans le monde entier, aux États-Unis bien évidemment, mais aussi dans le Golfe Persique. Du jour au lendemain, des fonds d'investissement ont dû expliquer à leurs clients qu'ils avaient tout perdu. Alors comment ce système a-t-il pu exister ? Eh bien, Bernard Madoff était un financier très réputé, petit-fils d'immigrés européens. Il avait entamé sa carrière dans les années 60 pour devenir l'un des noms les plus connus, les plus influents de Wall Street. Fin 2008, il avoue cet énorme mensonge à ses deux fils qui le dénoncent. Après son procès très médiatisé l'année suivante, il est condamné à 150 ans de prison. Depuis, on savait que Bernard Madoff était en mauvaise santé. Il avait demandé une libération anticipée l'an dernier à cause d'une maladie rénale entrée en phase terminale. À l'époque, il s'était d'ailleurs confié au Washington Post et exprimé des regrets pour ses actes qu'il avait lui-même qualifiés de terrible erreur.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique et de ramener les troupes à la maison. C'est ce que devrait dire ce soir Joe Biden, discours très attendu sur l'Afghanistan. Les soldats américains devraient quitter le pays d'ici le 11 septembre, date du 20e anniversaire des attentats de 2001 qui avaient provoqué l'intervention militaire américaine.
En France, on se souvient de la mobilisation de ce boulanger de Besançon en début d'année. Il avait entamé une grève de la faim pour protester contre l'expulsion de son apprenti guinéen.
Et il avait gagné d'ailleurs. Eh bien, dans le Nord, à Grande-Synthe, un autre boulanger remue lui aussi ciel et terre, Lionel Gougelot, pour empêcher l'expulsion de son jeune apprenti, Maya, 19 ans. Un rassemblement de soutien a d'ailleurs lieu en ce moment, Lionel.
Oui, effectivement, Isabelle est parmi les soutiens du jeune Maya, Aïcha, cliente habituelle de la boulangerie, bouleversée par l'histoire de cet orphelin qui a traversé la Méditerranée il y a 4 ans avant d'être placé ici en foyer.
Toutes ces personnes qui sont arrivées de l'étranger dans un canot de sauvetage, du mieux qu'ils ont pu, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui ont leur place, il n'y a pas de raison, la terre elle est à tous. Je pense qu'il mérite vraiment qu'on lui donne une chance.
Cette chance, ce serait tout simplement une régularisation pour un apprenti qui, depuis 3 ans, fait le bonheur de son patron, Salem Kalfat.
Il pense à travailler, réussir, à arriver à faire mieux. Toujours, il veut mieux. Il a tellement envie de faire des choses dans sa vie. À mon avis, il réussira. Un garçon comme ça, on ne peut pas le jeter et on ne peut pas le renvoyer et on ne peut pas le perdre en France. On a besoin des jeunes comme ça.
Alors aujourd'hui, Maya espère un geste des autorités, lui qui ne voit pas son avenir ailleurs qu'en France.
Je me suis intégré déjà et j'ai été à l'école, j'ai mon travail et j'ai une copine et on s'aime bien et on a l'avenir ensemble. J'aimerais bien ouvrir ma boutique plus tard, devenir patron et ouvrir ma boulangerie. C'est mon objectif aussi.
Et les soutiens se multiplient. Une pétition lancée ici pour la régularisation du jeune Guinéen a déjà rassemblé plus de 20 000 signatures.
Lionel Gougelot à Grande-Synthe dans le Nord pour Europe 1. Allez, rien que pour le plaisir, on voulait aussi vous faire écouter ce soir ce titre qui vient de sortir. Mick Jagger et Dave Grohl en duo quand deux rockstars, le leader des Rolling Stones et celui des Foo Fighters, unissent leurs voix et leurs instruments. Écoutez, ça donne ça. Mick Jagger et Dave Grohl rencontrent au sommet. Ça vous plaît ?
C'est pas mal.
Deux légendes du rock, en tout cas. Le titre s'appelle Easy Sleazy. Ça vient de sortir et si vous êtes bilingue, vous aurez entendu que les deux stars se moquent gentiment de la vie en temps de pandémie, les danses ridicules sur TikTok, les visioconférences et les théories du complot.
Mais c'est pas ce que vous écoutiez tout à l'heure dans votre bureau.
Non.
C'était U2.
Exactement.
Merci Isabelle, je vous ai écouté parce qu'on a un bureau côte à côte.
C'est vrai.
Merci Isabelle, à tout à l'heure, 18h30. Le temps avec Anissa Haddadi, c'est à l'ouest que la journée sera demain la plus ensoleillée.
Oui, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, hein, tout le long de la façade ouest, la journée débute sous un ciel complètement dégagé. Avec un soleil déjà très généreux, en face, le long de la façade est, c'est autre chose, un autre scénario. Là, nous avons plus de nuages dans le Grand Est, en Lorraine, en Alsace et jusqu'en Provence. Avec d'ailleurs sur les Vosges, le Jura et les Alpes, le retour de la neige demain après-midi à partir de 700 mètres. En Provence, là aussi, nous avons des nuages menaçants sur la Côte d'Azur avec quelques petites gouttes attendues dans l'après-midi. Sur toute la moitié nord, nous aurons aussi du vent. Demain en particulier sur la Bourgogne, la Normandie, le centre Val-de-Loire, le vent du nord, la fameuse bise qui va souffler jusqu'à 50 km/h. Cette bise, elle rafraîchit l'atmosphère, déjà qu'il ne fait pas chaud, il va falloir se couvrir demain. Il ne fera que moins 5 degrés à Montluçon, moins 4 à Nevers, moins 3 pour Clermont-Ferrand, moins 2 à Belfort, moins 1 à Mont-de-Marsan, un petit degré à Paris et Lille, 3 pour Ajaccio et 8 à Nice, ça c'est pour le matin.
Oui.
Dans l'après-midi, comptez 8 degrés à Dunkerque, c'est comme aujourd'hui, 11 à Lille, 12 pour Paris, 13 à Lyon, 16 à Bordeaux et 18 la maximale pour Montpellier seulement. alors que nous sommes mi-avril.
Et on verra tout à l'heure si le froid va persister dans les prochains jours à 18h30.
C'est une question que vous me posez souvent, je vais enfin vous donner la réponse.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe 1, Julien Bugier.
18h14, vous restez avec nous dans quelques secondes. L'historien Pascal Blanchard sera notre invité, grand spécialiste de la décolonisation qui suscite aussi parfois les critiques. On verra pourquoi tout de suite. Et ce soir, notre invité à 18h17, il est historien, chercheur associé, grand spécialiste de la colonisation et il a été chargé par le président de la République, Emmanuel Macron, d'identifier des figures de notre histoire issues de l'immigration, des femmes également, pour renommer des rues et des bâtiments publics. Bonsoir Pascal Blanchard.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors, vous avez identifié 318 noms qui vont de Ventura à l'ancien président de l'OM, Pape Diouf, en passant par des héros de guerre, vietnamiens, des tirailleurs sénégalais, Bakary Diallo notamment, des femmes, Gisèle Halimi, Françoise Giroud et plein d'autres. D'abord, où est-ce qu'on en est un mois après ?
On en est à faire déjà que l'écho a été extrêmement bon, que beaucoup de maires nous ont appelés, que des programmations d'inauguration sur le mois... Vous savez qu'en ce moment, inaugurer une rue, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile, donc... Le créneau des premières inaugurations va être juin-juillet pour Madame la Ministre, Nadia Hay, qui va être celle qui maintenant prend le relais de notre travail d'historien. Et je pense beaucoup de demandes aussi pour des bâtiments publics, ce qui nous surprend énormément, médiathèques, bibliothèques, complexes sportifs, où justement là, l'adéquation entre un sportif connu et reconnu et les nouveaux complexes sportifs fait énormément sens. On a beaucoup de demandes de ce type-là. Et oui, je pense que c'est à la fois un succès sur le court terme dans l'impact que ça a produit, et de manière très concrète, puisque c'est les maires qui s'en emparent maintenant, qui débattent sur les territoires, leurs conseils municipaux.
C'est ma question justement, Pascal Blanchard. Comment le président de la République, comment les associations, comment vous, qui avez, entre guillemets, choisi ces 318 noms, vous pouvez inciter les maires, les conseils municipaux à piocher dans cette grande liste ?
Leur suggérer, leur donner envie. Leur dire, au lieu d'aller chercher des fois un étranger de l'étranger, comme Martin Luther King, Mandela, regardez notre histoire. Ils ont défendu la France, ils ont aimé la France, ils ont chanté la France, ils ont écrit la France, ils ont soigné la France pour les médecins. Piochons des noms qui ramènent à notre histoire dans nos frontières pour raconter une histoire qui touche de plus proche les Français. Car très souvent, c'est aussi simplement la méconnaissance de ces portraits.
Et pourquoi vous pensez que c'est important dans notre histoire commune, dans un moment aussi fracturé, on en parlera ?
Parce que quand on se regarde dans un miroir, on a envie de voir une part de soi pour être légitime. Ça s'appelle la reconnaissance.
Oui.
Et on a besoin à un moment d'être reconnu dans un pays. Et que aussi tout le pays reconnaisse que ces gens simplement ont contribué à notre histoire. Vous savez, si vous discutez rapidement, vous pensez qu'Aznavour, c'est notre patrimoine. Picasso, c'est notre patrimoine. Mortenol, vous connaissez moins, qui a défendu Paris. Mais tout ça, c'est notre patrimoine. Simplement, beaucoup de Français ignorent même qu'un Mortenol a défendu Paris, qu'il y avait un aviateur d'OUI, vous en parliez tout à l'heure, vietnamien pendant la Première Guerre mondiale. Beaucoup ne savent même pas qui est Toussaint Louverture. Qui connaît Ponette Nardal, qui rentre à la Sorbonne, première femme noire et qui va contribuer à la négritude ? C'est aussi une manière de transmettre aux générations futures. Vous savez, la commémoration, les noms de rue, ce n'est pas pour notre génération, généralement. Oui. C'est pour ceux qui viendront demain.
Mais est-ce qu'on n'est pas juste dans le symbole et dans l'accessoire, pardon de le dire ainsi ?
Bien sûr, on est dans l'accessoire et dans le symbole. Ce n'est pas ça qui fait que les gens iront mieux. Par contre, ça contribue à faire que beaucoup se diront que ce pays est le leur.
Alors, c'est une démarche aussi, on va dire les choses, Pascal Blanchard, qui ne fait pas l'unanimité, notamment dans la classe politique.
Bah, sinon, il y aurait des noms de rue déjà de la diversité partout en France, si ça faisait l'unanimité.
Bruno Retailleau, par exemple, des Républicains, juge que le président fait le jeu, je le cite, des décoloniaux qui ne sont jamais rassasiés des repentances. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Que quand je rends hommage à un soldat qui est mort pour la France, je ne fais pas de la repentance, je fais une mémoire utile pour que notre génération actuelle se souvient de ceux qui, depuis 230 ans, ont bâti notre pays. Mais en même temps, je n'en veux même pas à M. Retailleau, puisqu'il connaît pratiquement aucun des noms de ce recueil. Normal, il ne les a pas appris à l'école, donc il ne comprend pas l'importance de parler, par exemple, de Raphaël Élisée, un maire noir, élu à Sablé-sur-Sarthe, une ville que nous connaissons tous, et qui a été réélu à Sablé-sur-Sarthe dans les années 30, et qui terminera déporté pour fait de résistance.
Mais vous pensez que la repentance est un devoir nécessaire aujourd'hui ?
La repentance n'a rien à faire pour notre génération. Nous ne sommes en rien responsables de ce que nos aînés ont pu faire. Par contre, nous avons un devoir de transmission et de savoir. Sinon, vous savez, ces jeunes iront chercher ailleurs des bouts d'histoire que l'éducation nationale ne leur transmettront pas. Et généralement, ils ne vont pas sur les meilleurs sites pour le faire ou auprès des meilleurs porteurs d'une parole incendiaire.
Est-ce que vous estimez que c'est l'antidote, d'une certaine manière, une des réponses au fameux déboulonnage des statuts
où on
est dans l'excès, quand même, on peut le dire.
Non, mais moi,
l'excès.
Je suis contre le déboulonnage. D'abord, un historien qui veut qu'on détruise le patrimoine, ce serait anachronique. Moi, je pense qu'il faut utiliser ce qu'il y a dans l'espace public, expliquer qui était Colbert, expliquer qui était Gallieni, expliquer qui était Federbe, peut-être construire aussi de nouveaux noms et de bâtir de nouveaux endroits pour que notre histoire soit plus ouverte et plus large. Mais surtout, si vous faites effacer le passé dans 20 ou 30 ans, vous ne pourrez plus expliquer aux gens ce qu'a été l'histoire coloniale, ou l'histoire de l'esclavage, ou l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc je ne suis pas pour effacer ou détruire, je suis pour expliquer.
On est plutôt dans une ouverture d'esprit pour regarder ce passé en face, me semble-t-il, avec le rapport Stora, avec tout le débat autour des manuels scolaires, de la place qu'on donne à cette histoire de la colonisation et de la décolonisation. Je voudrais élargir le propos, Pascal Blanchard, avec vous, si vous me le permettez, car il y a des polémiques autour de ces thématiques qui se multiplient.
C'est normal, s'il n'y en avait pas, ce ne seraient pas les sujets importants.
Les réunions non mixtes, des études postcoloniales, cette idée aussi de l'islamo-gauchisme, je sais que vous en doutez, de l'existence même de cette théorie de l'islamo-gauchisme, mais comment expliquez-vous ce retour du racialisme en France, vous ?
Ce n'est pas un retour du racialisme, c'est un retour d'une question qui travaille notre société aujourd'hui, parce que pendant 20 ou 30 ans, ces questions n'ont pas été posées ou mal posées. Vous savez, c'est toute une génération de chercheurs, on dit ça vient d'Amérique. Mais dans la plupart des cas, c'est des historiens français et des sociologues qui sont partis en Amérique parce qu'ils n'avaient pas de poste en France. Ces questions sont travaillées par beaucoup de pays depuis de nombreuses années. Nous, ça nous fait peur parce que, comme elles n'ont jamais été appréhendées et enfouies sous le tapis, je vous rappelle qu'on est un pays qui n'a toujours pas un musée d'histoire coloniale, par exemple. Parce que si vous allez en Angleterre, en Hollande, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, c'est des paradoxes. Personne ne comprend qu'on n'a pas encore regardé notre histoire en face. Donc d'un seul coup, on découvre, et c'est vrai d'une manière un peu brutale, tout un retard de plein de questions. Et donc ne soyons pas surpris que ces histoires passées fassent des éclaboussures dans le présent. Oui, c'est compliqué, c'est très compliqué ce qu'on est en train de se dire.
La controverse que ça produit, c'est que ça suscite des censures qui posent question quand même
des
dans les
côtés,
universités.
Hein. Des deux côtés.
Oui, mais...
des deux côtés. Faut le dire. Si on est honnête, vous et moi, vous voyez, si on regarde l'histoire et qu'on fait une analyse du temps présent, vous avez des deux côtés une forme de terrorisme intellectuel qui voudrait empêcher les gens de parler.
Est-ce qu'on peut regarder une forme de censure sans forcément regarder à côté ?
Mais ça prouve bien que c'est une guerre.
La hiérarchie de l'indignation peut être à géométrie variable, mais en tout cas, il y a une censure problématique aujourd'hui à l'université. Vous l'admettez ?
Je ne crois pas que c'est le mot de censure. Il y a un rapport de force. Je pense qu'il faut l'appeler comme il est. C'est un vrai rapport de force entre certains qui veulent imposer leur idée des deux côtés. Et donc, au lieu de passer
mais
par la voie médiane...
l'université doit rester un lieu d'expression, de débat.
Il n'y a pas de débat, on est d'accord là-dessus.
Il ne s'agit pas de déprogrammer, comme ça a été le cas il y a quelques temps, une conférence sur Napoléon. L'annulation de la pièce Les Suppliantes, par exemple.
C'est des aberrations.
C'est des aberrations.
D'abord, on ne brûle pas des livres, on ne supprime pas des pièces, on laisse les gens s'exprimer et on peut débattre. Mais je dis bien des deux côtés, parce qu'à partir du moment où on accepte même l'idée qu'une pièce de théâtre peut être interdite. Sauf, bien sûr, si elle est avérément raciste. Rappelez-vous, il y a eu un spectacle qui a voulu être arrêté il y a quelques années, qui était au 104 de Brad Bellès, qui s'appelait Exhibit B. On s'était battu en disant avec Lilian Thuram, mais c'est pas parce que cet artiste est blanc qu'il n'a pas le droit de parler. On doit être vigilant. Mais de l'autre côté, on doit aussi être vigilant pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de nouveaux territoires de réflexion. Le chercheur a la liberté de choisir son sujet. C'est fondamental. Sinon, s'il y avait un immense censeur qui devait décider sur quoi on a le droit de créer, de penser, ou vous, journaliste par exemple, des sujets qui seraient interdits pour vous, vous seriez les premiers à vous lever en disant « ma liberté de journaliste, c'est de choisir mes sujets ». Nous, chercheurs, on dit la même chose.
Donc, dans les deux cas, il faut s'appliquer
Vous l'avez dit, dans les deux cas, il faut être vigilant.
Je voudrais vous faire réagir aussi aux critiques dont vous êtes l'objet. Il y a eu cet article qui a beaucoup fait parler, portrait que j'ai là, dans les pages du Figaro, daté du 9 avril. « Pascal Blanchard, l'indigéniste, version cool de Macron ».
Voilà. Ce que j'aime bien, c'est « version cool ». Compte, je vais vous dire. Parce que ça veut dire qu'ils ne savent pas comment arriver à tordre la chose. On serait donc un monstre, mais d'un seul coup, on serait un monstre à visage cool parce qu'on travaille sur des sujets compliqués.
Oui.
En fait.
Mais c'est nourri quand même de personnalités universitaires.
Retraités comme M. Taguieff.
Ou Rougier, sociologue spécialiste
avec
de
l'histoire. Je suis venu sur CNews discuter.
Qui dites-vous que les questions raciales et coloniales font votre notoriété et votre profit ?
30 ans que je travaille sur la question coloniale.
C'est sévère, ça, comme attaque.
Oui, non, mais alors attendez, je vais vous dire une chose. D'abord, je considère que toute personne qui décide de faire du média, comme on fait tous les deux, vous et moi, aujourd'hui, toute personne qui décide de s'exprimer, il est normal qu'elle soit critiquée et attaquée. Je ne conteste pas la chose, je n'ai pas les mêmes avis que Rougier, je n'ai surtout pas les mêmes avis que Taguieff, et je n'ai pas du tout les mêmes avis que Vermeuren. Donc, il n'est pas du tout étonnant qu'ils essayent, à travers leur desiderata, leur manière de parler de moi, d'essayer de m'empêcher de parler.
Mais la question de fond, c'est est-ce que vous racontez l'histoire par un biais ?
Idéologique. Non, que je la raconte par rapport à une méthode peut-être, une manière de parler et une manière de faire des livres qui ne leur plaît pas, j'en doute pas. Quand ils ont vu ce film que vous connaissez bien, Décolonisation du sang et des larmes, ils ont considéré pour eux, c'était pas le film qui leur posait problème, c'est que France Télévisions passe à 20h30 ce type de film. Ils considèrent que seul leur point de vue sur l'histoire est le droit d'exister. Et ben moi je considère que le droit de la liberté de chercher, de penser, de s'exprimer, et je leur laisse leur liberté totale. Moi, je n'interdis pas à M. Vermeuren ou M. Taguieff de parler. Eux, par contre, ils ont un problème. C'est qu'ils aimeraient bien que nous ne puissions pas nous exprimer comme eux.
Bien. J'ai une dernière question d'actualité. Est-ce que vous êtes favorable, Pascal Blanchard, à la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon? Ça fait débat en ce moment, là aussi, entre les universitaires. Napoléon, est-ce qu'il faut célébrer Napoléon ou pas?
Alors, attendez, vous m'avez posé deux questions. Commémorer, célébrer, il va falloir qu'on discute du mot.
C'est vrai, c'est pas pareil.
Parler de Napoléon est fondamental. C'est une des plus grandes personnalités de l'histoire de France. Commémorer le bicentenaire est essentiel dans notre récit de la transmission. Regarder l'intégralité de ce qu'a été Napoléon est autant important que le commémorer. J'attends de voir l'exposition comme vous qui est à la Villette pour pouvoir juger si justement toutes les parts de lumière et d'ombre de Napoléon. Parce que c'est comme ça qu'on regarde un individu, ses parts de lumière et d'ombre. Donc je ne pourrais. Oui, il faut le commémorer, mais il faut le commémorer avec toute la justesse du regard de l'histoire. Et je n'ai pas encore vu l'expo avant de vous donner mon point de vue
bien,
définitif.
Vous la verrez, vous reviendrez nous voir au micro d'Europe 1. Merci infiniment, Pascal Blanchard, d'être passé par le studio d'Europe Soir.
Europe 1. Julien Bugier.
18h27, le rappel des titres dans quelques secondes. Et le débat des grandes voix, des procès filmés comme aux États-Unis, c'est ce que veut le ministre Dupond-Moretti. Est-ce un danger pour la justice ou au contraire un progrès? On en parle après la pause. A tout de suite. 18h30, le rappel des titres avec vous Isabelle Millet.
Le porte-parole du gouvernement confirme que le vaccin Johnson & Johnson sera distribué et administré dans les mêmes conditions que ce qui est prévu aujourd'hui pour AstraZeneca, c'est-à-dire qu'il sera réservé aux personnes de plus de 55 ans, mais il faut d'abord attendre l'avis de l'Agence européenne du médicament. La semaine prochaine, sans doute, elle doit se prononcer après la décision des autorités américaines de faire une pause dans l'administration de ce vaccin après l'apparition de quelques cas de caillots sanguins. Et alors que le Danemark devient le premier pays d'Europe à renoncer à la vaccination avec AstraZeneca, les laboratoires Pfizer-BioNTech annoncent aujourd'hui qu'ils vont augmenter de 50 millions de doses les livraisons de leur vaccin à l'Union européenne. Il n'y aura pas de procès pour le meurtrier de Sarah Halimi, cette sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris. La Cour de cassation confirme l'irresponsabilité pénale du jeune homme hospitalisé en psychiatrie. Et puis quel adversaire pour Paris en demi-finale de Ligue des Champions? Le PSG sera fixé ce soir à l'issue du match entre Manchester City et Dortmund.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour le journal. La météo avec Anissa Haddadi. Le soleil perd du terrain dans le nord-est demain matin.
Oui, en effet, dans le Grand Est et jusqu'en Provence demain, tout le long de la façade est, le ciel sera un petit peu plus nuageux qu'aujourd'hui, avec d'ailleurs dans l'après-midi le retour de la neige dans les Vosges, le Jura et les Alpes, avec des flocons dès 700 mètres. Dans les Hauts-de-France et la Lorraine, nous aurons des petites averses qui vont se déclencher dans l'après-midi. Partout ailleurs, le soleil reste bien présent. D'ailleurs, c'est de la Bretagne jusqu'au Pays Basque qui fera le plus beau demain avec un soleil très généreux. Demain matin, il va faire froid encore, couvrez-vous. Moins 5 à Montluçon, moins 4 à Nevers, moins 3 à Clermont-Ferrand, moins 2 à Rodez et Dijon, moins 1 à Blois, 1 degré à Paris, 2 à Brest, 4 à Bordeaux et 8 à Nice. Dans l'après-midi, c'est stationnaire exactement comme aujourd'hui.
Question bonus, ma chère Anissa, qu'est-ce qui nous attend pour les prochains jours?
Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que le froid va persister. On se demande quand est-ce que ce froid va s'arrêter, parce que l'année dernière avait été l'un des mois d'avril les plus chauds de l'histoire.
J'annule ma question bonus alors.
Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que le froid persiste au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine avec pas mal de gelées matinales
encore.
Eh
bien, on en parle tout à l'heure à 19h. Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h32, place au débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Julien.
Étienne Girard, rédacteur en chef société à L'Express. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Julien.
Et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur du site d'Info Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Alors on commence par cette grande nouveauté, cette réforme de la justice portée par le ministre Éric Dupond-Moretti, des caméras dans les prétoires. C'est du jamais vu. Comme aux États-Unis, il sera désormais autorisé de filmer les salles d'audience pour diffuser les procès. C'est un changement majeur qui suscite la polémique parmi les avocats et les magistrats. Éric Dupond-Moretti, lui, se justifie.
Ça a pour but, mais quand même on va le dire, hein, parce que ça c'est essentiel, de permettre aux Français de mieux appréhender leur justice. C'est du pédagogique et du pédagogique et rien de trash. Et d'ailleurs, ces procès ne seront diffusés qu'à compter du moment où ils ont connu leur épilogue définitif. Je ne veux surtout pas d'interférence entre le procès médiatique et le vrai procès.
Bon, que faut-il en penser, Bruno Jeudy? Ça pose tout un tas de questions, on y reviendra dans le détail. D'abord, votre réaction.
Moi, sur le principe, je ne suis pas contre. Sur la question de la pédagogie, je crois que c'est vrai. Éric Dupond-Moretti pose un diagnostic qui est assez juste. Les Français connaissent pas leur justice parce qu'elle est finalement très compliquée.
Oui.
Elle s'est sans doute beaucoup éloignée des justiciables. Et en plus, elle nourrit aujourd'hui beaucoup de critiques elle-même sur la longueur des procédures, sur la non-application des peines ou l'application des peines trop tardive. Donc, c'est vrai que les Français ne savent pas comment ça se passe à l'intérieur, finalement, des cours et tribunaux. Et sans doute qu'ils appréhenderaient peut-être mieux aussi la difficulté de la justice. Et peut-être aussi... D'un laxisme qu'on dénonce et qui finalement n'est pas toujours vrai, loin de là, parce qu'il faut voir que quand même tous les jours, il y a beaucoup de peines qui sont prononcées et qui sont lourdes.
C'était déjà possible de filmer les procès dans des cas extrêmement rares, hein, quand il y avait un intérêt d'archives historiques. C'est la loi Badinter qui a permis par exemple de filmer le procès Klaus Barbie. Mais là, ce qui change, c'est que tous les procès seraient concernés. Les procès importants, les procès civils, pénals, avec des questions qui se posent notamment sur la présomption d'innocence. Sens, hein, le poids des images qui peut porter quand même préjudice à l'accusé, la protection évidemment de la vie privée. Et puis certains disent, avec la médiatisation qu'il pourrait y avoir autour, ça pourrait faire une forme de pression aussi sur les juges. Votre avis, Jean-Sébastien Ferjou ?
Je comprends, moi, la volonté de pédagogie, mais c'est vrai que ces questions-là, on ne peut pas les balayer d'un revers de la main, d'autant qu'il est assez paradoxal de constater qu'on n'a pas le droit de publier la photo, ne serait-ce que de quelqu'un qui porterait des menottes, mais là, finalement, les images... Oui. Donc on peut imaginer que tout serait flouté, mais du coup, regarder des choses où tout est flouté, c'est aussi pas forcément un produit grand public, donc je ne sais pas si, du coup, la volonté de pédagogie est atteinte. Et surtout, moi, ce que je trouve un peu étonnant, c'est que cette annonce-là, elle permet de masquer celle qui est faite conjointement et qui est celle de la généralisation des cours criminels, c'est-à-dire de cours de magistrats professionnels, là où avant, un certain nombre de crimes étaient jugés dans le cadre de cours d'assises avec des jurys populaires. Donc après, il peut y avoir des arguments dans un sens et dans l'autre, mais enfin, il me semble que c'est loin d'être une réforme purement technique et que c'est assez étrange que les débats, finalement, soient masqués sous des considérations qui sont intéressantes, parce que c'est un vrai sujet, et on sait que d'autres pays, et vous le rappeliez, les États-Unis font, mais ça me paraît finalement une question beaucoup moins importante de savoir si c'est filmé ou pas, que c'est de savoir qui sont les gens qui jugent.
Mais ça fait partie d'un tout, et ça fait partie d'une intrusion quand même, des caméras, des micros dans les cours d'assises, dans les cours pénales, dans la justice un peu
et
tous les jours.
Et on ne se comporte pas de la même manière quand une caméra est présente.
Voilà. Mais... Est-ce que pour vous, c'est un progrès, Étienne Girard, ou alors, comme on disait tout à l'heure, c'est le début d'une espèce de justice spectacle ?
Non, je pense que c'est une très bonne mesure. D'ailleurs, le dispositif qui a été retenu est prudent, hein, la diffusion. Parce que ce qui est important, ce n'est pas finalement la captation, c'est la diffusion. La diffusion, elle aura lieu une fois que la décision de justice aura été rendue définitive.
Oui.
C'est un temps qui est ultra raisonnable. Ça veut dire, entre la captation et la diffusion, donc il y a souvent des appels, il y a souvent des pourvois en cassation, ça veut dire 5 ou 6 ans après le procès. Bon, c'est raisonnable. Et je vais vous raconter l'histoire.
Ça peut être rapide aussi. Hein. Si vous prenez le procès d'Aval, par exemple, il n'y a pas eu d'appel derrière, il n'y a pas eu de pourvoi.
Oui.
Et donc, on aurait pu imaginer que ce soit diffusé 3 mois plus tard.
Oui, mais sitôt que c'est définitif, ça ne porte pas question sur la présomption d'innocence.
Oui.
Et moi, ce qui s'est passé autour de la plaidoirie de Richard Malka m'a interrogé au procès. Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, au procès des attentats de janvier 2015. Évidemment, sa plaidoirie n'a pas été filmée. Très belle plaidoirie. Il en a donné une version écrite au journal Le Monde, qu'il a diffusée par écrit. Effectivement, c'est un très beau document.
Mmh.
C'est un superbe document.
Oui.
Ce document-là, à mon avis, il est intéressant pour l'ensemble des citoyens français.
Oui.
Et donc,
on n'a pas besoin de filmer pour ça. Il y a une pièce de théâtre avec un bouquin qui a été fait qui s'appelle Plaidoirie, qui a été joué par Richard Berry, où on revient sur des plaidoiries célèbres. Il y a les avocats qui peuvent transcrire leur plaidoirie, il y a des écrits. On n'a pas besoin.
Éric Dupond-Moretti est monté sur scène lui-même.
C'est vrai.
Oui,
c'est vrai.
Ce sera encore plus fort, plutôt que d'avoir une plaidoirie, ce serait plus fort d'avoir tout le procès. Le procès Charlie Hebdo, alors lui, il a été filmé, donc ce n'est pas forcément le bon exemple, mais on pourra le voir dans très longtemps. Qu'on puisse voir ce type de procès assez peu de temps, c'est-à-dire de la même génération.
Allez, un petit mot de Jean-Sébastien
Ferjou. Pour la même génération,
Ferjou.
C'est important.
Et on avance.
Non, mais après, c'est qui va le regarder et dans quelles circonstances, parce que tout est là. Et encore une fois, c'est un point qui est quand même... On pouvait déjà filmer. Après, c'était beaucoup de négociations. Mais je me souviens, dans certaines émissions de télévision pour lesquelles j'ai travaillé, on négociait et on filmait des procès en assises. Après, qu'est-ce que ça change dans l'absolu ? Pour le coup, la question de qui prend la décision. Et effectivement, y a-t-il une relation entre l'affichage des décisions ou des débats et les décisions elles-mêmes ? Enfin, ça me paraît quand même survoler en quelque sorte la question du lien de confiance entre les Français et la justice.
Bien. Merci à tous les trois. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On va parler de Spoutnik. Il paraît que la région PACA va avoir ses premières doses. 500 000 doses, nous dit Renaud Muselier. On en parle dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, je voudrais qu'on parle maintenant de cette affaire du vaccin russe, le Spoutnik, après la désunion de l'Europe sur le sujet. Voilà que le président de la région PACA, Renaud Muselier, dit vouloir en commander 500 000 doses dans son coin parce que la vaccination, dit-il, ne va pas assez vite, si les autorités européennes, évidemment, en valident l'efficacité. Renaud Muselier.
J'avais demandé à l'époque de pouvoir participer aux appels d'offres européens présentés par la France. J'ai vu l'ambassadeur de Russie, j'ai vu le Land allemand de la Bavière, qui est le plus puissant d'Allemagne, et j'ai fait une précommande de 500 000 doses de Spoutnik dans l'attente de l'autorisation des autorités sanitaires européennes.
Bien, Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, coup de com' à quelques semaines des régionales, hein, on le précise, ou bon sens ?
Un peu des deux, peut-être, mais quoi qu'il en soit, il faut rappeler que c'est suspendu à la décision de l'Agence européenne.
Il l'a dit, Renaud
Muselier. Bien sûr qu'il l'a dit, mais de la même manière, non, mais parce qu'on a pu voir que les Allemands avaient passé des commandes ou que la Hongrie avait passé des commandes, mais dans ces pays-là, le vaccin n'est pas injecté et ne le sera pas aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu de décision de l'Agence européenne du médicament. Après, c'est vrai que c'est perturbant.
Mais quand même, ça va à l'encontre de la doctrine française. Si chacun dans son coin fait ses petites commandes de vaccins, on n'est pas sur le même pied d'égalité, nous, citoyens français.
Non, mais peut-être faudrait-il réinjecter un peu de concurrence justement pour voir la réalité de qui sont les gens qui gèrent le mieux. Après, est-ce que ça va rajouter la pagaille ou pas ? On en est à un stade du calendrier où, à mon avis, c'est pas ça le problème majeur. Moi, ce que je vois et qui n'est pas, à mon sens, préparé ni anticipé par le gouvernement, c'est qu'avec l'arrivée potentielle de variants, enfin on ne peut pas l'être sûr, le variant brésilien, c'est déjà 6 à 7% des cas aux Pays-Bas, pas au Brésil, hein, aux Pays-Bas. Donc les Pays-Bas, c'est
0,4 en France.
Oui, en France, mais vous savez, comme moi, c'est exponentiel et ça a commencé pareil avec le variant britannique qui, la première semaine de janvier, était à peu près à ça et on a vu comment ça avait évolué. Mais bref, de toute façon, peu importe. Au moins, de manière théorique, puisque gouverner, c'est prévoir, on peut imaginer que si des variants arrivent sur lesquels tous les vaccins ne sont pas également efficaces, ça va sérieusement perturber la logistique et le calendrier prévu par le gouvernement parce que les gens ne vont pas vouloir se faire vacciner par des vaccins qui ne seraient pas efficaces sur tel ou tel variant. Et ça, en l'état, ça n'est pas pris en compte.
Étienne Girard, sur le Spoutnik. Bonne idée ou pas de Renaud Muselier ?
Je dois reconnaître un certain agacement vis-à-vis de ce type d'initiative qui, au final, n'aura aucune incidence puisque, vous l'avez rappelé, on est dans un état où on a une agence du médicament qui valide ou pas un vaccin. Et donc, il peut précommander tout ce qu'il veut, il peut précommander aussi le vaccin chinois.
Sauf que ça pose une question fondamentale. A-t-on besoin du Spoutnik ?
Oui,
mais... Thierry Breton a dit il y a quelques semaines à la télévision sur TF1, plateau du 20h, a dit on n'en a pas besoin et on n'en aura pas besoin. Renaud Muselier, ce qu'il dit, lui, c'est attendez, on n'a déjà pas de doses, donc même s'il y a peu de doses qui nous arrivent de Russie, c'est toujours ça de prix. Et d'ailleurs, il rappelle Renaud Muselier qu'à l'époque, on lui avait dit ça n'est pas à vous de commander des masques, mais il l'a fait quand même.
Oui, mais c'est pas pareil. Un masque, ça se commande et ça se donne. Les vaccins, c'est pas lui qui va les inoculer, c'est des fonctionnaires de l'État. Et donc, si le vaccin n'est pas validé par l'État, le vaccin, il ne sera pas donné aux gens. Donc, c'est, à mon avis, on ne peut pas faire cette comparaison.
Il n'y a pas que des fonctionnaires de l'État, il y a des médecins aussi. Oui, Bruno Jeudy, sur le Spoutnik.
Moi, ce qui me gêne sur le Spoutnik, et je trouve que c'est en ça que Renaud Muselier n'est pas très prudent, c'est qu'on n'a pas, pour l'instant, l'avis de la Haute Autorité de Santé en France. On a vu les pays qui s'étaient précipités sur les Chinois, ça n'a pas forcément été une grande réussite, notamment vis-à-vis du variant brésilien. Les déboires de certains pays sud-américains actuels sont liés justement à l'absence d'efficacité de ce vaccin que les Chinois se sont empressés d'offrir à des pays pour des raisons diplomatiques et d'influence. Donc je trouve que Renaud Muselier, il brise un consensus qui me paraît assez politique. Je comprends bien la manœuvre. Je suis pas contre l'esprit de concurrence et le centralisme français a aussi eu ses défauts. On n'a pas besoin de revenir là-dessus, on en a parlé suffisamment. Mais bon, là, je trouve que aujourd'hui, c'est moins l'urgence maintenant. Elles arrivent, les doses. C'est plus l'urgence.
Jean-Sébastien Ferjou.
Surtout, qui est pour le coup, je trouve assez ironique, c'est qu'il semblerait que les vaccins aient des colorations politiques, parce qu'on voit bien que le vaccin Sputnik V parle plutôt à certaines familles politiques, alors qu'il y a quand même de vraies questions qui se posent. Je ne vous parle même pas uniquement de son efficacité sanitaire, mais il y a des questions qui se posent sur le fait que ce vaccin-là, potentiellement, ait pu être réalisé parce que des tests ont été faits de manière forcée sur certaines catégories de population, peut-être des militaires en Russie. Donc, c'est vrai qu'on se dit pourquoi commander plus celui-là. Parce qu'on voit bien que derrière, il y a une logique politique de dire, on sait qu'il y a des familles politiques qui préféraient que nous entretenions des relations différentes avec la Russie. Mais je trouve qu'il est toujours hasardeux de mélanger justement des considérations géopolitiques avec des considérations strictement sanitaires.
Mais ça pose encore une fois la question de l'utilité de ce vaccin, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'entre-temps, il y a la défiance qui monte sur l'AstraZeneca et il y a les problèmes avec le Janssen, dont on attendait 220 000 livraisons de doses. Alors, je ne sais pas si elles sont arrivées ou si elles ont été bloquées. En tout cas, elles ne seront pas utilisées pour l'instant. Donc, il va y avoir la question de l'approvisionnement en vaccins qui va quand même se poser très vite.
Mais il est évident qu'il y a eu un rapport extrêmement idéologique vis-à-vis de ce vaccin pendant de nombreuses semaines au niveau de l'Union européenne.
Oui.
Je crois que ce qu'a dit Thierry Breton est très clair là-dessus. C'est qu'il y avait un refus par principe de considérer qu'on pouvait avoir besoin du vaccin russe. Et effectivement, c'est très mauvais de mélanger le sanitaire avec le géopolitique. On comprend pourquoi ça a été fait, ce que ça revêt en termes de symbole d'avoir recours à un vaccin russe. Cela dit, là, il faut se rendre à l'évidence. Il faudra faire un grand bilan à la fin. Et on n'a pas été bon. On n'a pas été bon sur, parce que si on refuse, si on ne veut pas prendre en compte le vaccin russe, alors il aurait fallu avoir nos propres vaccins immédiatement,
alors
le bon nombre de doses, etc.
En juin, en juillet, en août, a priori.
Justement, ça nous
fait trop tard. L'urgence, c'est sans attendre le bilan justement de ces différentes campagnes de vaccination, c'est de voir que le calendrier tel qu'il est présenté, espérons, et on a vu qu'on avait été capable d'accélérer quand même pendant le courant du mois de mars sur la vaccination, mais enfin, rien n'est garanti non plus sur les objectifs publics, et notamment à cause de la méfiance ou des problèmes qui peuvent surgir sur X ou X vaccins. Mais ça, il faut le prendre en compte. Et donc, on ne peut pas faire comme si la vaccination allait nous sortir de tout, et il faut toujours penser aux mesures qui nous permettent pendant ce temps-là de réduire les contaminations.
Bien, une courte pause, 18h47, et on se retrouve pour la suite des Grandes Voix, tout de suite. 18h50, les Grandes Voix suite, avec toujours Bruno Jeudy de Paris Mat, Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, Étienne Girard de L'Express. Alors, le président de la République tiendra-t-il sa promesse de rouvrir les terrasses de bars et de restaurants à la mi-mai, comme il s'y est engagé? Une réunion est prévue demain à l'Élysée sur la question. Alors, est-ce que ce sera vraiment le cas? Ce matin, Bruno Le Maire a dit que ça faisait partie des hypothèses, sans le confirmer. Et un peu plus tard, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, est resté, lui, très prudent. Bruno Jeudy, est-ce que le président de la République parviendra-t-il à tenir sa promesse? Il en va de là. Parole politique.
Ce sera sans doute pas si facile que ça. D'abord, un des calendriers, le président de la République nous en a déjà donné pas mal. Au mois de janvier, on devait rouvrir, on avait clôturé en voyure le 20 janvier.
C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'il a encore droit à un bonus?
Il faut d'abord rappeler qu'il avait déjà eu aussi un bonus lorsqu'il avait annoncé 4 à 6 semaines. On est aux 6 semaines, donc là on l'a encore raté. Donc là on essaie une troisième fois. Bon, alors il y a l'école le 26 avril, et puis les terrasses de café, et peut-être plus à partir de la mi-mai. Les deux dates sont quand même assez compliquées à tenir, parce qu'on voit bien que
il y a
pour
un frémissement à la baisse sur les chiffres.
Frémissement à la baisse, mais enfin les lidréats, ça reste élevé. Moi, je pense que les écoles, avec quand même beaucoup de en diffusant les autotests et tout ça, ça devrait quand même finir par pouvoir marcher pour les écoles. Pour les restaurants, on voit bien que même les professionnels misent plutôt sur le mois de juin que sur le mois de mai. Donc même eux semblent, chat échaudé craint l'eau froide. Donc du coup, les promesses présidentielles, ils y croient qu'à moitié.
Il y a quelque chose qui va peser aussi dans la balance, c'est le poids des images. Les terrasses à Londres, où on peut boire des pints, où on peut boire des cafés.
Sous la neige.
La Belgique qui ouvre ses terrasses à nouveau jours. Et nous, la France, toujours claquemurée en confinement partiel. Ça aussi, ça peut jouer, Jean-Sébastien Ferjou.
Bien sûr que ça peut jouer, mais la situation sanitaire reste ce qu'elle est. Et malgré tout, les choses ne se jouent pas. La question que vous posiez sur le bonus, elle s'apprécie par rapport à 2022. Enfin, j'imagine, parce que dans l'intervalle, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne va pas se mettre en grève ou tous se jeter à la mer si jamais ça ne rouvre pas au mois de mai. Après, sur la question du bonus, je pense que tout dépendra pour Emmanuel Macron de la perception qu'ont les Français de son action à l'arrivée. Donc à la fin, c'est-à-dire c'est pas parce que les terrasses rouvrent dans certains pays maintenant qu'elles vont rester nécessairement ouvertes tout le temps, parce qu'on le voit aux États-Unis ou dans d'autres pays, il y a des quatrièmes vagues qui sont en train d'arriver. Après, moi, je trouve assez étonnant ce suraffichage politique, effectivement, sur un enjeu. On comprend bien qu'ils veuillent donner des perspectives. Mais enfin, avons-nous vraiment besoin d'un président de la République qui préside un conseil demain pour mesurer l'écart entre les tables et que ce soit lui qui s'en charge, ou d'un président de la République qui prenne en compte...
Vous savez ce qu'ils disent, les Français. Les Français, ils disent « on est capable de tout entendre, mais arrêtez de nous embobiner. »
Mais justement, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, ce que j'aimerais entendre...
Donnez-nous une perspective et dites-nous la vérité.
Ce que j'aimerais entendre, il y a deux clusters à l'heure actuelle dans des EHPAD en France de gens qui ont été vaccinés et qui sont quand même contaminés. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça limite les cas graves, même si sur des personnes âgées. Mais enfin, la question des contaminations malgré la vaccination, elle existe. La question des variants, elle existe. La question du fait que l'épidémie dure plus longtemps et que plus de gens l'aient, et que donc mécaniquement ça sélectionne des variants plus virulents, ça existe. La question du retour de boomerang parce que le reste du monde n'est pas vacciné en l'état, elle existe. Et donc moi je veux bien qu'on soit dans la pensée magique qui consiste à imaginer que parce que ça s'est bien pensé au printemps l'année dernière, ça va bien se passer au printemps 2021. Je préférerais un président de la République qui affiche le fait qu'il travaille, on en parlait sur la réouverture des écoles, l'aération, la purification de l'air, enfin bref, un certain nombre de mesures qui permettent encore une fois de vivre le temps que ça dure, parce que malheureusement le scénario, souhaitons tous que ça marche et que ce soit bientôt fini, mais c'est pas non plus gravé dans le marbre et c'est même pas le plus probable.
Vous avez des actions dans les purificateurs d'air, non?
Non, mais il y a des tas de... sur les tests salivaires aussi, mais non, mais je devrais peut-être.
Étienne Girard.
Non, la mairie de Paris a refusé hier d'ailleurs.
Non, mais ce qui est troublant, c'est que Emmanuel Macron a dit exactement le contraire dans sa grande allocution de fin octobre. Fin octobre, il nous expliquait les restaurants et les bars seront ouverts quand on aura de bien meilleurs chiffres sur les contaminations, sur les entrées en réanimation. Donc, la réouverture de ces lieux était fonction de la situation sanitaire et de chiffres sanitaires, ce qui est compréhensible par tout le monde.
Oui.
Là, ça a changé. C'est on se fixe d'abord un objectif et il n'y a plus de chiffres. On se fixe un objectif et on va voir, et on va voir ce qu'on fait, on vous tient au courant.
Mais il y a aussi un élément de compréhension qui permet de remettre dans le contexte, c'est qu'on se souvient que le président de la République avait décidé de la date du déconfinement il y a un an, et que ça avait fonctionné. Il avait gagné son pari contre l'avis des scientifiques, contre l'avis de son gouvernement.
On n'a pas fait le traçage ni l'isolement, et que c'est pour ça qu'on a vécu la deuxième vague.
Pendant quelques semaines et quelques mois, on avait eu l'illusion que ça avait fonctionné.
Oui, on a eu l'illusion pendant l'espace d'un été, avant de retomber dans la deuxième vague. Mais bon, encore une fois, tout n'est pas de sa faute, et c'est une crise difficile à gérer. Moi, j'ai trouvé plutôt que dans sa dernière allocution, même s'il s'est senti obligé de donner des perspectives, parce qu'il reconfinait le pays pour la troisième fois, il quand même restait assez prudent, il n'a pas fixé des seuils pour les réouvertures.
Mais donner une date, c'est pas prudent.
Oui, mais au deuxième confinement, il avait quand même dit il faudra qu'on descende en dessous de 5000 contaminations, 2500 dans l'IDREA. On n'a jamais atteint ces chiffres-là et on a quand même déconfiné. Donc cette fois-ci, il n'est pas allé jusque-là. Il a certes parlé du 15 mai, mais il est resté, je trouve, assez flou, un peu plus prudent, parce que je pense que lui-même, aujourd'hui, n'en sait sans doute rien, même si en coulisses, ça discute avec chaque corporation, parce qu'il faut bien, à un moment, envisager la réouverture des théâtres, des cinémas, des restaurants, parce que ce sont des professions qui sont grosso modo à l'arrêt depuis un an.
Peut-être un dernier mot, Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'il doit prendre la parole, le président de la République, là, dans les jours qui viennent, pour expliquer la suite ?
Est-ce qu'il devrait le faire ? Je ne sais pas, je pense que...
Est-ce qu'on a besoin de clarté? On a besoin
d'une prise de parole. Est-ce que c'est forcément lui, il faut qu'il ait quelque chose à annoncer. Le Premier ministre, il peut très bien annoncer des calendriers de réouverture. Moi, je n'ai pas besoin de savoir. Le monde d'après, tout ça, on l'a déjà eu l'année dernière, donc ça ne sert à rien de le refaire.
Mais surtout, continuons à parler du monde dépendant, parce que négliger le monde dépendant en privilégiant trop le monde d'après, c'est quand même prendre un grand risque.
Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mercredi. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
18h56, restez avec nous dans quelques secondes. Le journal, toute l'info et le débat du Club des idées. À quoi servent vraiment les diplômes? Sont-ils toujours un gage de réussite? On en parlera avec nos invités et vos témoignages. À tout de suite.